deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à la mémoire des colonisations, colonisation belge, colonisation française et aujourd'hui la colonisation allemande. Après avoir écouté hier l'historien américain Todd Shepard nous parler de la place faite aux hommes algériens après la décolonisation de l'Algérie en 1962 et avant demain de nous questionner sur la mémoire de Léopold II et du Congo belge dans la Belgique d'aujourd'hui, partons aujourd'hui pour Berlin où se tient au musée historique allemand de Berlin une grande exposition consacrée au colonialisme allemand. En effet, on oublie souvent que jusqu'en 1918 et depuis 1884, eh bien, les Allemands avaient aussi, comme d'autres puissances européenne, des intentions colonisatrices et qu'ils ont colonisé la Namibie, le Cameroun, le Togo, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. C'est cette histoire que nous raconte en balade, donc dans ce musée, Victor Massé de l'Épinay avec ses invités Andreas Eckert, Joël Glassmann et Kerstin Stubenvoll.
Donc nous voilà dans la première salle de cette exposition Deutscher Kolonialismus au Deutsches Historisches Museum avec trois invités. Andreas Eckert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à la Humboldt Université ici à Berlin. Oui. Joël Glassmann, bonjour. Historien au centre Marc Bloch, spécialiste de l'histoire africaine. Et Kerstin Stubenvoll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en histoire, spécialiste de l'histoire du Cameroun à la Université Humboldt également. Alors cette exposition qui a ouvert il y a quelques mois et qui va être encore ouverte pour plus d'un mois a déjà accueilli 100 000 visiteurs. C'est une exposition qui a un succès important en Allemagne sur cette histoire coloniale allemande qui a été pendant longtemps, on peut dire, assez occultée de la mémoire allemande. On a parlé presque d'amnésie coloniale pour l'Allemagne. Andreas Eckert, est-ce qu'il y a un contexte nouveau? Est-ce qu'on est dans une dynamique nouvelle depuis 10 ou 20 ans peut-être?
Oui, je crois que c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est une amnésie totale. Il y avait bien entendu, dans les années 30, il y avait beaucoup de mémoire, mais c'était parce que les nazis avaient un grand intérêt de récupérer l'Afrique et leurs anciennes colonies. C'est vrai, dans les années 40, 50 et une partie des années 60, oui, c'était tout à fait oublié. Personne ne s'est occupé. Mais il y avait un petit moment autour des années 68, où le colonialisme allemand a fait partie d'un débat général sur le passé nazi, mais aussi le passé violent de l'Allemagne. Il y avait un autre petit moment en 84, autour du 100e anniversaire de la conférence de Berlin. Mais c'est vrai que surtout après la réunion des deux Allemands autour de 2000, il y a un nouveau intérêt qui continue jusqu'à aujourd'hui, mais avec beaucoup de ruptures. Et c'est toujours vrai que l'intérêt public est très limité. Mais disons, au niveau des spécialistes, il y a un grand intérêt à ce sujet-là.
Joël Glassmann, vous êtes le français dans nos intervenants d'aujourd'hui. On peut essayer peut-être de faire un tout petit peu de comparatisme entre la mémoire coloniale française et la mémoire coloniale allemande. On dit souvent que, sans doute, la principale différence, c'est que une grande partie des populations françaises d'origine immigrée viennent des anciennes colonies françaises, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. D'abord puisque cette histoire coloniale est beaucoup plus ancienne, et puis parce que en Allemagne, la plupart des populations d'origine immigrée viennent plutôt de Turquie, qui n'a pas été du tout une colonie allemande. Mais vous pensez que ce n'est pas la seule différence ?
Je crois que c'est important pour mettre l'histoire de coloniale allemande en contexte. D'abord, en termes d'ampleur, la colonisation allemande, si on prend un pays comme le Cameroun ou le Togo, ça dure 30 ans. Si on compare avec la colonisation française, l'Algérie, c'est 130 ans de colonisation. Donc déjà, il y a une question d'ampleur. Et il y a une question d'ampleur au niveau de la population colonisée, de la colonisation allemande, au moment de la plus grande étendue de l'empire colonial allemand, c'est 12 millions de sujets colonisés. Pour la France, c'est aux alentours de 50 ou 60 millions. Donc on n'est pas dans la même ampleur. C'est aussi une histoire pour l'Allemagne qui est plus ancienne, qui s'arrête en 1918 pour la colonisation formelle. Donc on n'a plus aujourd'hui vraiment de gens qui ont fait l'expérience de cette époque, alors qu'en France, on a encore beaucoup de gens qui ont vécu la colonisation, qui ont une mémoire vivante de la guerre d'Algérie, par exemple. Et ça peut aussi expliquer que en France, la question coloniale, c'est un enjeu électoral, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. Ni à gauche, ni à droite, la colonisation est une question qui permet de gagner des voix vraiment pour gagner une élection.
Alors Kerstin Souwenfall, vous avez beaucoup travaillé sur la dernière partie de l'exposition, donc on vous retrouvera surtout en fin de parcours. Mais néanmoins, on a dit que cette exposition avait été d'ores et déjà un grand succès public. Est-ce que cette mémoire de la colonisation, aujourd'hui en Allemagne, est une mémoire apaisée? Est-ce que c'est une mémoire encore partagée? Est-ce qu'il y a des mémoires conflictuelles? Comment est-ce que vous qualifieriez cet enjeu mémoriel autour de la colonisation allemande?
Oui, je pense qu'en Allemagne, les premières expositions qui se sont faites avant cette grande expo, c'était soit des expositions locales, donc à Munich, par exemple, vous en aviez une première il y a quelques années, où c'était surtout les noms de rue, donc ce qui est très très visible dans l'espace public, qui a été thématisé. Et ici, maintenant, vous avez un premier essai de vraiment contextualiser et cadrer ce qu'on peut dire sur ce colonialisme allemand. En même temps, au niveau politique de la mémoire, je pense, pour exemple, une importante exposition sur les RRO, ça a été fait à Paris, au Mémorial de la Shoah. Donc vous avez un contexte qu'il y a le national-socialisme auquel on va lier cette thématique dans une certaine mesure ou une autre. Donc il y a un contexte allemand spécifique de réception, je pense, de ce passé qu'il faut considérer. Et un sujet pourtant qui a ses propres dynamiques et ses propres enjeux, je pense.
Alors nos auditeurs trouveront sur le site la visite de l'exposition Mémorial de la Shoah qu'Emmanuel Laurentin avait faite il y a quelques semaines. Je voudrais commencer peut-être devant cette horloge qui est sur l'affiche de l'exposition, qui est, on pourrait dire, un objet colonial assez classique. C'est une horloge qui nous montre l'heure de l'Empire colonial, avec indiqué « Keinen Sonnenuntergang in unserem Reich », ce qui signifie le soleil ne se couche jamais sur notre empire. Andreas Eckert, parce qu'il faut préciser qu'il est surtout question d'Afrique dans cette exposition, mais l'empire colonial allemand s'est étendu aussi en Chine et dans le Pacifique.
Oui, c'est vrai qu'il y avait bien entendu cette idée d'avoir grand empire comparable aux empires britanniques et français. Mais il faut aussi dire que les territoires allemands en Chine et au Pacifique n'ont jamais joué un rôle assez important dans le contexte du colonialisme allemand, ni sur les questions économiques, ni sur les questions idéologiques, si vous voulez, même si on peut trouver, surtout dans les colonies allemandes au Pacifique, les choses comme travail forcé et aussi un intérêt stratégique et économique. Mais il faut dire que vraiment le centre des efforts coloniaux allemands était en Afrique. Et c'est là où on peut, je crois, le mieux observer, analyser, disons, les dimensions et les ambiguïtés du colonialisme allemand.
Donc peut-être pour nos auditeurs qui ne situent pas absolument ce qu'ont été en Afrique les colonies allemandes, il faut rappeler que ça a été en particulier le Cameroun, le Togo, l'Afrique orientale allemande, c'est-à-dire la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, et l'Afrique occidentale allemande qui était la Namibie. Ces colonies figurent là sur une grande carte, mais j'aimerais qu'on aille sous cette grande carte où il y a quelque chose que vous avez évoqué, Andreas Eckert, qui sont les actes de la conférence de Berlin. On va aller voir ça tout de suite. Conférence de Berlin qui s'est tenue à la fin de l'année 1884 et au début de l'année 1885. Et on peut lire en français la fin de cette conférence. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte général et y ont apposé leur cachet, fait à Berlin le 26e jour du mois de février 1885. Et la première signature qui apparaît sous ce texte, c'est celle de Bismarck, Joël Glassmann. Quelle était la position de Bismarck vis-à-vis de la démarche coloniale avant cette conférence de Berlin?
Ah, donc le contexte de Berlin en 1884-1885, donc c'est au moment de la course au clocher, donc au début des années 80, il y a une vraie course pour la prise de territoire en Afrique. Et Bismarck n'avait pas particulièrement une politique coloniale très prononcée. Il s'est plutôt laissé convaincre progressivement par les grands commerçants, par la grande bourgeoisie, notamment de Hambourg, et par le lobby colonial qui a fait pression pour mener une politique coloniale. Mais par contre, la décision de la conférence de Berlin de Bismarck, ça a été deux choses. D'abord, l'idée qu'il ne fallait pas faire la guerre en Europe pour les colonies, donc de ne pas recommencer la guerre franco-allemande de 1870 pour l'Afrique. Et la deuxième décision, ça a été de dire on va se donner des règles pour prendre possession de l'Afrique, pour éviter la guerre en Europe. Et la règle la plus importante, ça veut dire qu'il faut, pour prouver qu'on a une possession en Afrique, avoir des hommes sur place, avoir une présence sur le terrain et pas seulement déclarer qu'un bout de la carte appartient à une puissance européenne. Donc on a des puissances européennes qui s'entendent sur les règles du partage de l'Afrique.
Les puissances européennes et aussi à la conférence de Berlin, les États-Unis, l'Empire ottoman qui était là également. Mais vous venez d'évoquer les lobbies coloniaux allemands. Il y avait plusieurs associations allemandes tout au long du 19e qui ont commencé à faire pression et à vouloir coloniser l'Allemagne et peut-être même à fonder d'une certaine façon, les premières colonies. Comment est-ce que ça s'est passé avant cette conférence de Berlin, Andreas Eckert? Comment est-ce que les Allemands se sont peu à peu accaparés des morceaux d'Afrique?
Oui, d'abord, il faut dire que les groupes les plus importants, apparemment, étaient les commerçants allemands, surtout de Hambourg et de Bremen, qui avaient des intérêts profonds dans quelques régions de l'Afrique, pas partout, mais par exemple en Afrique de l'Ouest. Il y avait des commerçants comme Wermann ou Janssen et Tormelin qui ont fait le commerce déjà depuis quelques décennies. Et pour assurer, pour garantir leurs influences dans ces régions, mais aussi pour avoir plus de pouvoir de vraiment faire du business sans être dépendant des middlemen africains, ils ont pressé de plus en plus les hommes politiques en Allemagne pour leur garantir la protection surtout militaire. Et la deuxième grand groupe, c'était les missionnaires. C'était quand même un groupe, si vous voulez, international, cosmopolitain. Donc par exemple, la mission de Bâle était située en Suisse, mais il y avait beaucoup de missionnaires allemands qui font partie de ça. Et pour eux aussi, ils ont vraiment dit que pour une mission civilisatrice, il fallait quand même la protection administrative coloniale. Et ce sont aussi cette idée de civiliser les Africains, aussi de donner, disons, l'intelligence et les savoirs allemands en Afrique. C'était quelque chose qui a été très convaincu pour une grande groupe ou pour plusieurs couches sociales en Allemagne. Parce que les intérêts commerciaux, c'était surtout pour un petit groupe dans quelques régions de l'Allemagne. Donc l'argument civilisatrice a été souvent plus important que l'argument économique.
Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de l'exposition qui montre un peu la dimension militaire, guerrière, violente, et évidemment, de cette colonisation, sous le drapeau rouge, blanc, noir qui flottait sur les colonies allemandes et devant une arme qui est le Maxim Gun, qui est un peu l'arme emblème de cette colonisation. Et devant une statue et certains tableaux qui présentent la figure de l'Askari. L'Askari qui est ce soldat indigène au service des puissances coloniales allemandes. On voit ces Askaris sur un tableau qui est là devant nous, une peinture coloniale assez classique. On reconnaît les Askaris donc avec cet uniforme blanc et le chapeau rouge qui combattent d'autres Africains, des indigènes qui sont loin dans la forêt, qui ne sont que des ombres, c'est-à-dire qui sont presque une force de la nature, pour ne pas dire presque des sortes d'esprits de la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui étaient ces Askaris et peut-être nous dire la place qu'il a eue dans l'imaginaire collectif allemand?
D'abord, il faut dire que tous les pouvoirs coloniaux, les Allemands et les autres, avaient besoin des intermédiaires parce qu'il y avait très peu d'Allemands dans les colonies. Donc pour vraiment établir une administration coloniale, il fallait des associés locaux. Et aussi, sur le plan militaire, les pouvoirs européens ont souvent utilisé des groupes locaux pour les assister. Et les Askaris, c'était un groupe ambigu aussi, mais c'était surtout des gens qui ont travaillé pour les Allemands, parce que pour eux, ça a quand même donné beaucoup d'opportunités. C'était d'abord un salaire assez solide comparé aux autres. Donc c'était, disons, un groupe qui n'était pas convaincu du modèle colonial allemand, mais c'est plutôt un groupe très pragmatique qui a utilisé les opportunités données.
ces askaris ou ces soldats étaient pratiques aussi parce que quand ça fonctionnait, ils étaient la preuve vivante par leur port de l'uniforme, par leur droiture, par leur discipline, etc., de l'œuvre civilisatrice. Et quand ça ne marchait pas, on pouvait se dédouaner de la violence en disant c'est la violence que ces soldats ont apportée à cause de leur tradition ancestrale de violence. Et donc on a des sources et de la propagande coloniale sur la mutilation des cadavres, sur les excès de la violence, dont se dédouanent ainsi les officiers coloniaux, ce qui n'est pas du tout spécifique, bien sûr, à la colonisation allemande, mais qui était la même stratégie du côté des Français et des Britanniques.
Vous évoquez les situations de grande violence. On a rapidement parlé tout à l'heure du génocide Herero, puisque ça a été requalifié récemment en génocide. Il y a ici donc toute une partie consacrée au génocide des Herero, des Nama, et il y a une autre guerre qui est évoquée, qui est la guerre des Magi-Magi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est cette guerre des Magi-Magi, où elle a eu lieu, ce que ça signifie Magi-Magi?
La guerre contre les Magi-Magi en Afrique orientale allemande, donc en Tanzanie actuelle, ça fait entre 60 000 et 200 000 morts, on ne sait pas très bien, mais ça fait une guerre coloniale avant la Première Guerre mondiale, avec des conséquences également très importantes. Donc une révolte au départ qui dégénère et qui a été réprimée de façon extrêmement violente. Alors on s'est beaucoup focalisé sur ces moments de violence extrême, sur la guerre coloniale, mais il faut se souvenir que même dans les situations ordinaires, la violence était très importante. Par exemple, il y a un historien, Peter Zebal, qui s'est intéressé au nombre de munitions qu'avait importé l'armée allemande au Togo, et il a constaté qu'on avait apporté autant de balles, de mitraillettes, que d'habitants. Donc potentiellement, on avait les moyens de faire des destructions très massives, ce qui s'est passé en Tanzanie, en Namibie, mais qui aurait pu également avoir lieu ailleurs.
Cette question des Herero ou des Magi-Magi, comment est-ce qu'elle était reçue à l'époque, au tout début du XXe siècle, en Allemagne? Il y a ici, par exemple, exposé une lettre d'un missionnaire, vous évoquiez tout à l'heure les missionnaires, Andreas Eckert, qui s'élève contre le génocide Herero, les camps de concentration, les conditions de vie. Est-ce que ça faisait débat en Allemagne à cette époque-là?
Oui, ça a fait débat, mais il faut aussi dire que la plus grande majorité de la population et des hommes politiques ont soutenu cette guerre pour dire que voilà, c'est le grand pouvoir allemand ne peut pas accepter les résistances comme ça, il faut battre les Africains. Mais on a discuté seulement sur la dimension de cette guerre, et c'est vrai que sur les camps de concentration et la mort massive, il y avait la critique, il y avait aussi la critique par exemple par les sociodémocrates qui ont dit que cette guerre coûte énormément de l'argent, donc c'est encore une autre preuve pour la faillite pour des hommes politiques responsables qui n'ont pas bien géré leur colonie. Mais même s'il y avait la critique, il n'y avait jamais un critique profond qui a dit le colonialisme, c'est une mauvaise chose. Même les sociodémocrates ont toujours accepté le colonialisme. C'est quelque chose qu'il faut faire pour civiliser les autres. Mais il faut aussi dire, par exemple, que les lettres, les protestations des missionnaires et aussi de quelques hommes économiques, des commerçants, étaient qu'on ne peut pas tuer tous les héros parce que sinon on n'a plus rien des travailleurs pour nous. Donc c'était pas seulement une question de l'humanité, mais aussi une question de calcul pragmatique ou économique. Donc il y avait très peu de résistance profonde contre le colonialisme allemand à cette époque-là.
Alors on est ici dans la troisième partie de l'exposition, arrêté devant une affiche qui m'a intéressé et également amusé. Togoland Unterkleider, ce sont les sous-vêtements du Togo, c'est une publicité donc pour le coton togolais. Andreas Eckert, je voudrais profiter de cette affiche pour vous interroger sur le bilan économique de cette colonisation allemande dont on a beaucoup dit que ça n'avait pas été un succès.
C'est vrai pour tous les pouvoirs coloniaux que c'est économiquement en général, c'était pas un succès, mais il y avait des entrepreneurs qui ont beaucoup gagné pendant cette époque. Le coton au Togo signifie aussi cette idée d'être, de devenir plus indépendant du marché mondial pour avoir propre coton allemand au Togo. Donc on a introduit un grand projet et on a même fait venir des Noirs américains qui avaient cette image d'être spécialiste de la production du coton pour établir des grandes plantations de coton à Togo, mais ça n'a pas du tout marché. Il y avait quelques entrepreneurs qui ont beaucoup gagné dans ce contexte, mais pour, disons, taxpayers, pour les gens qui ont payé des impôts, pour les contribuables, c'était quelque chose à ajouter.
Le Glassman, sur cette question.
Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure est vrai, c'est que l'Allemagne a un passé colonial qui est moins important que la France en termes d'ampleur, etc. Mais par contre, pour cette question économique, on voit bien avec ces projets d'implantation de savoir qui sont pris dans l'Amérique du Sud, les États-Unis du Sud, sur l'exploitation de coton, sur la mise au travail d'une main-d'œuvre très mal payée. On a la participation à une mondialisation très tôt, bien avant les années 90, tout le monde s'est mis à parler de mondialisation, mais une mondialisation coloniale à laquelle l'Allemagne, pour le coup, participe pleinement. Et la richesse de certaines maisons commerciales à Brême, à Hambourg, dont on a parlé, mais qui se voit aussi dans le bâtiment, dans le port, dans une construction de structures coloniales qui, là, pour le coup, sont très importantes et qui ont donné à la modernité européenne et à la modernité économique européenne une vraie marque coloniale.
Il y a une autre dimension dont on n'a pas encore parlé et qui fait l'objet de la quatrième partie dans cette colonisation allemande, peut-être plus spécifiquement dans la colonisation allemande, c'est la dimension scientifique de la colonisation.
Mais c'est également un aspect important, c'est que la colonisation dépasse le seul moment de la domination effective sur le terrain, c'est qu'elle commence bien avant, avec toute la raciologie, l'anthropologie coloniale, mais également la médecine. Et puis qu'elle continue bien après la fin de la colonisation officielle, donc en 1918, avec tout un ensemble de savoirs constitués. On prend un exemple, ça peut être Robert Koch, par exemple, qu'on connaît en France pour le bacille de Koch, qui était un grand médecin allemand et qui a fait, comme beaucoup de médecins de son époque, des expériences sur des sujets coloniaux, qui est allé en Ouganda, qui est allé en Tanzanie, faire des expériences sur la maladie du sommeil.
Quelles années ?
C'était avant la Première Guerre mondiale, donc entre le début du siècle et la Première Guerre mondiale. Mais donc on est à un moment de la constitution d'un savoir européen occidental pour lequel les colonies sont constitutives. Et on a aujourd'hui un des grands débats à l'hôpital de la Charité qui possède un certain nombre de crânes qui ont été ramenés des colonies pour faire des mesures anthropométriques et raciologiques à l'époque coloniale, dont on ne sait aujourd'hui que faire. Mais également, si on allait au musée d'histoire naturelle, on verrait des grands squelettes de dinosaures. Le musée d'histoire naturelle de Berlin a le plus grand squelette de dinosaures de l'Europe, qui a été rapatrié des colonies avant la Première Guerre mondiale. Donc on a tout un héritage scientifique qui est intimement associé à la colonisation, à la situation coloniale, et pour lequel tous les intermédiaires africains qui ont contribué à la construction de cet héritage scientifique ont été aussi complètement oubliés.
Vous dites qu'on ne sait pas qu'en faire. Il doit ouvrir normalement donc en 2020 le Forum Humboldt, qui serait les grandes collections ethnologiques. Et il y a un débat en Allemagne aujourd'hui justement sur le sort de ces collections. Est-ce qu'on doit rendre aux pays dont sont issus ces restes humains ces collections ethnologiques, Andreas Eckert?
Deux points d'abord sur les recherches, disons, médicales, et le débat sur le malaria, c'est un bon exemple parce que on a découvert que le malaria transféré par les moustiques, Anopheles, mais quand même on a fait une conclusion qu'il faut seulement séparer les Africains et les Allemands et il faut établir une zone libre entre les deux. Et ça a beaucoup influencé, disons, le planning urbain. Et le plus grand problème maintenant avec tous ces artefacts humains, si vous voulez, tous les crânes et tout ça, et les restes humains, le problème est que très souvent, on ne sait pas exactement d'où ces éléments viennent. On a quand même une correspondance et on a des documents qui montrent très bien que c'était aussi en commerce. Donc c'est un problème délicat. Je crois le Forum Humboldt sera, disons, une bonne occasion pour voir comment les Allemands seront prêts à vraiment, disons, discuter leur passé colonial. Parce qu'au moment, c'est un peu, oui, c'est très compliqué, on ne peut pas faire ça, c'est trop pénible. Donc c'est encore une fois un effort de mettre un peu à côté ce passé assez négatif, parce qu'elle montre encore une fois que que le progrès scientifique a été souvent basé sur le racisme et la violence. Et ça, bien entendu, touche quelques éléments profonds de beaucoup de sciences qui se voient non politiques.
Justine Stubenfold, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet?
Je voulais justement ajouter une petite pensée par rapport à ce qui est la muséographie ici. C'est assez intéressant que nous voyons, je pense, les formes. Ce n'est pas les masques eux-mêmes qu'on va reproduire, qu'on va montrer, qui, dans un sens, constituent une deuxième humiliation, je pense, des personnages qui les ont livrés. Mais c'est les formes qui nous amènent plutôt vers le processus de production de ce savoir et cette perspective de ceux qui l'ont produit, qui sont les Allemands, en ce cas-là.
Voilà, parce que là, il faut dire qu'on est devant une série donc, qui ressemble à des boîtes en bois, mais qui sont en fait des moules en bois, de ces masques que quelqu'un qui s'appelait Otto Finch a réalisé pour dresser une sorte de typologie raciale des populations colonisées. C'est bien ça ?
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentan.
Alors, on est donc maintenant dans la sixième partie de cette exposition qui s'appelle « Le colonialisme sans les colonies ». C'est-à-dire qu'on se situe après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a divisé les colonies allemandes entre les vainqueurs de la guerre. Et c'est à ce moment-là que l'idéologie coloniale va devenir très importante dans la société allemande. On se trouve ici devant une série de tableaux ou de dessins ou de photos qui montre par exemple cette figure des Ascaris qu'on a évoqué tout à l'heure, qui vont devenir à partir de 1919 véritablement une figure mythologique ou idéalisée du bon Africain et de la bonne colonisation allemande. Joël Glassman sur ce sujet.
Alors juste après la sortie de la Première Guerre mondiale, au moment où donc les Britanniques, les Belges, les Français se partagent les colonies allemandes avec un mandat de la Société des Nations, il y a une critique qui est faite par les Britanniques, par les Français, par les Belges de la violence coloniale allemande, avec toute une certaine nombre de sources qui sont rassemblées pour montrer que la colonisation allemande a été particulièrement brutale. Colonisation qui a été particulièrement brutale, mais qui est bien sûr ni plus ni moins brutale que la colonisation britannique, française ou belge. Par exemple, la Belgique a été amenée à administrer le Rwanda et le Burundi, alors que la colonisation belge au Congo avait été elle-même extrêmement brutale. Et donc ça a amené une contre-attaque de la propagande coloniale allemande pour montrer qu'au contraire, le bilan colonial avait été positif, avec un document qui était extrêmement important, qui est une encyclopédie coloniale de quelqu'un qui s'appelle Heinrich Ney, qui était le gouverneur lui-même de l'Afrique orientale allemande, et qui a rassemblé un certain nombre de connaissances qui avaient pour but de montrer tous les bienfaits de la colonisation allemande. Et c'est un héritage qui va être repris ensuite, dans les années 30, par les forces d'extrême droite.
Alors on se trouve devant une affiche qui dit « Arbeit und Brot durch Kolonien », c'est-à-dire du pain et du travail par le biais de nos colonies. C'est évidemment dans un contexte de crise économique. La colonie va représenter une sorte d'idéal qui pourrait redonner l'élan qu'il faudrait à l'Allemagne, Andreas Eckert.
Oui, c'est vrai. Donc il faut bien entendu dire que ça c'était la propagande surtout, parce que l'Allemagne n'était pas vraiment dépendant excessivement des richesses des colonies, mais ça a quand même créé une inquiétude. De l'autre côté, il faut dire que déjà dans les années 20, on trouve des voix, on culte des voix qui disent « voilà, peut-être ça peut être aussi un avantage ». D'avoir plus les colonies, parce qu'on avait quand même ces premières vagues de décolonisation. Il y avait pas mal de contemporains qui ont dit, oui, il y aura un moment assez bientôt où les colonisés vont vraiment faire la résistance, le monde va changer, et maintenant nous, sans colonies, sommes peut-être beaucoup mieux partis ou situés que les autres. Donc c'était quelque chose d'ambiguïté. Et je crois où on voit vraiment, disons, les éléments coloniaux, c'est dans les films, dans le théâtre, dans la musique et tout ça.
Donc ça, dans la littérature jeunesse,
surtout, et aussi où l'idéologie coloniale a été mêlée avec d'autres idéologies très pertinentes pour l'Allemagne. On voit ici, par exemple, le livre de Hans Grimm, Volk ohne Raum.
Et Volk ohne Raum, ça signifie un peuple sans espace.
Un peuple sans espace, et ça est devenu quand même une grande partie de l'idéologie nazie, de conquérir vraiment d'autres terrains pour trouver de place pour la population allemande. Mais il faut, et ça c'est quelque chose qu'on vient de découvrir il y a une trentaine d'années, c'est le grand rôle du colonialisme ou des images coloniaux dans la culture populaire. Et mais c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui est uniquement pour l'Allemagne, mais aussi surtout un projet européen. Et il faut toujours voir cette dimension européenne si on veut mieux comprendre aussi les spécificités allemandes dans ce contexte.
Dans ce cadre, une des discussions qui a été très importante ces dernières années, c'est de savoir dans quelle mesure cet héritage colonial ou cette idéologie coloniale, elle a été retranscrite ou retraduite dans des projets d'expansion européenne, notamment par le national-socialisme. Mais on sait que Hitler disait la Russie, c'est l'Inde de l'Allemagne. Donc l'Inde, parce que c'était le grand morceau de la colonie britannique, de la colonisation britannique. Et il y avait une idée comme ça qu'on pouvait avoir à l'est de l'Europe, ce que la Grande-Bretagne ou la France avaient en Afrique. Ce qui a été beaucoup discuté ces dernières années dans l'historiographie, c'est de savoir à quel point il y avait des continuités entre l'expérience coloniale en Namibie, notamment avec la guerre extrêmement violente et racialisée, avec la violence de la Seconde Guerre mondiale.
Par cette vision idéologique, nostalgique de la colonisation dans les années 20 et dans les années 30 passe aussi par la réhabilitation de grandes figures. On a là-bas une affiche qui présente Karl Peters.
Et c'est un exemple très intéressant, aussi un peu bizarre, parce que Karl Peters était vraiment un psychopathe, un type extrêmement violent, qui a été célébré comme le premier colonisateur de l'Afrique orientale allemande. Son occupation du terrain a été marquée par beaucoup de violence et son réhabilitation, surtout dans les années 30, pendant la période nazie, est un très bon exemple où on a transformé un type, très, très ambigu, très violent, dans un grand héros colonial allemand. Et bien entendu, de choisir Hans Albers, un acteur, un des plus populaires à cette époque-là, d'être Karl Peters, c'était bien entendu parce que Hans Albers était toujours quelqu'un qui a joué des rôles assez positifs, des vrais hommes et tout ça. Donc c'est un bon exemple pour la transformation des héros coloniaux ou la création des héros coloniaux. Il y a un autre épisode très intéressant dans ces films, il y avait pas mal des Africains qui ont joué des petits rôles ou des rôles de statistes. Et dans les années 20 et aussi dans les années 30, il y avait pas mal d'Africains des anciennes colonies allemandes qui ont vécu en Allemagne et ont essayé de survivre. Et pour eux, une des rares possibilités de survivre était dans les films. Mais la population africaine en Allemagne dans les années 20 et 30, c'est une histoire qui a été aussi beaucoup ou a été oubliée pendant une cinquantaine ou soixantaine d'années.
Alors là, on se trouve toujours dans cette section, dans l'entre-deux-guerres, devant une initiative qui est assez intéressante, qui est l'école coloniale pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Andreas Eckert, ce que c'est ? Donc, on imagine bien ce qui sous-tend la création de cette école coloniale, c'est de préparer une recolonisation.
Oui, exactement. Il y a un historien américain qui a dit que l'empire colonial allemand, disons établi ou créé dans les années 30, était le plus bien empire préparé qui n'a jamais existé. Et ce qui est intéressant, que cette école coloniale pour des femmes, que les femmes qui ont été qui ont visité ça, on les a envoyées souvent dans les territoires de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et ça, c'est un autre exemple que pour les Allemands, surtout pour les nazis, les territoires en Europe de l'Est étaient aussi des colonies.
Mais il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important dans le colonialisme, qui est la question du genre. Il y a une discussion sur laquelle a travaillé Marie Mouchalek, par exemple, sur la Namibie, de savoir est-ce qu'on fait venir des femmes allemandes en colonie ou pas. Donc la Namibie étant la seule colonie de peuplement réellement existante, où effectivement, au tournant du siècle, on a décidé de faire venir un certain nombre de femmes allemandes pour discipliner les soldats allemands et pour amener un semblant de normalité du quotidien. Et également, les années 20, c'est l'année de l'occupation de la Ruhr et de l'Allemagne de l'Ouest par l'armée française et par les tirailleurs sénégalais, par une partie des troupes coloniales françaises, avec une propagande allemande de résistance contre ça, avec l'idée d'une violence sexuée des troupes coloniales à l'encontre des femmes allemandes, et qui est un héritage également important de cette période coloniale.
Alors dans cette partie, on a évoqué la figure de Karl Peters. Il y a d'autres figures qui sont présentées, par exemple Theodor von Jahn-Michael, ou bien Hans Hoek, qui a été un de ses fils de soldats tirailleurs français noirs, qui a finalement été dans les Hitlerjugend. Andreas Eckert, vous pouvez nous parler un peu de quelques-unes de ces figures qui sont présentées dans l'exposition ?
On a Theodor von Jahn-Michael, par exemple, qui était le fils d'un Camerounais qui est venu en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, je m'excuse. Et c'était un des Africains qui a survécu dans les conditions très difficiles pendant l'époque nazie. Il n'était pas forcé d'être stérilisé, parce que ça, c'était aussi quelque chose que les nazis ont souvent fait avec ces Africains.
Hans Hoek, par exemple, a été stérilisé.
Il a été stérilisé. Il y a un document assez intéressant de l'année, je crois, 35 ou 36, où Alfred Rosenberg, un des associés les plus proches de Hitler, a écrit aux tous les responsables nazis dans les régions de dire qu'il faut quand même traiter les Africains un peu mieux que les autres, parce que si on veut rentrer aux colonies, il est important d'avoir des intermédiaires et de n'avoir pas créé trop de brutalité et ressentiment parmi eux. Mais quand même, il y avait pas mal d'Africains qui ont été tués dans les camps de concentration. Et un cas, c'est par exemple le Bahoum Mohamed Hussein. C'était un fils d'un askari. Et lui, apparemment, comme très jeune homme de 14, a fait partie des troupes allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il est allé en Allemagne, il a travaillé comme musicien et comme tout ça, et il a aussi travaillé dans les films, par exemple dans le film Karl Peters, et on lui a accusé d'avoir des relations sexuelles avec une femme, et on a appelé ça Rassenschande. On lui a mis dans un camp de concentration à Sachsenhausen, et là, il était mort à cause du faim et tout ça. Donc il y avait très peu d'Africains qui ont survécu l'époque nazie. Il y en avait. Et de plus en plus, assez récemment, dans les dernières 10-20 années, quelques d'eux ont commencé d'écrire leur biographie.
Alors, ce qui est très intéressant dans cette partie où on est entouré là de propagande nazie sur la colonisation, c'est qu'il y a aussi, alors là on est à la fin des années 20, une contre-propagande sur la colonisation. En l'occurrence, c'est une page d'un journal communiste qui nous montre des héréros faméliques, pour ne pas dire plus, et qui montre le véritable visage de ce qu'a été la colonisation allemande, d'après ces gens-là. C'était aussi quelque chose qui existait. Donc le débat était vraiment fort dans les années 20 sur cette réalité de la colonisation allemande.
On ne peut pas dire que c'était fort, mais il y avait bien entendu une critique assez profonde. Il faut se rappeler que par exemple, le Parti communiste était très très fort dans la politique allemande dans les années 20. Et il faut aussi dire que l'Allemagne, et surtout Hambourg et Berlin, sont devenus des centres du panafricanisme à ces années-là. Parce que le communautaire, donc l'international communiste, a d'abord décidé qu'il faut vraiment attaquer le capitalisme à partir du colonialisme. Et ils ont choisi l'Allemagne comme centre de leurs activités, parce que l'Allemagne n'est plus un pouvoir colonial, donc ça peut être un peu plus facile qu'à Paris ou à Londres. Donc il y avait beaucoup de congrès et beaucoup d'activités politiques, surtout à la fin des années 20, au début des années 30. Il y avait aussi le communiste allemand Willy Münzenberg, qui a beaucoup soutenu ces activités-là. Et dans ce contexte, bien entendu, il y avait aussi une critique assez forte du colonialisme et de la violence et de l'exploitation du colonialisme en général, et aussi d'attaquer un peu cette mélancolie ou nostalgie coloniale en Allemagne à cette époque. Mais c'était quand même une grande minorité qui a parlé.
donc on arrive dans les deux dernières parties de l'exposition qui pose vraiment la question du présent, de cet imaginaire colonial, cette réalité post-coloniale en Allemagne. La première chose qu'on voit quand on arrive, c'est cette grande statue qui est par terre en trois morceaux. Une grande statue du gouverneur de l'Afrique de l'Est allemande, Hermann von Wismann, qui a été donc tagué et déboulonné par les étudiants de Hambourg en 1967, avec à côté un guerrier askari et un lion. Cette statue, elle est intéressante puisqu'elle a été érigée à Dar es Salaam en 1909, puis finalement emportée comme butin de guerre en Angleterre en 1922. Est remise à l'université de Hambourg pour finalement être déboulonnée par les étudiants qui jugeaient que c'était une insulte à leurs camarades noirs de l'université. Cette salle-là dans laquelle on se trouve, Kerstin Stubenfold, pose aussi la question des mémoires contrastées entre l'Est et l'Ouest, finalement entre ces deux Allemagnes et peut-être deux mémoires de la colonisation.
Oui, je pense que notamment elle parle d'une responsabilité allemande dans toutes ces crimes, parce que quand vous voyez la statue, quand vous voyez aussi les noms des rues qui sont évoquées ici aussi, on s'adresse à un mémoire qui part des propres responsabilités allemandes et des bourreaux. Et du coup, en Allemagne de l'Est, donc en RDA, vous aviez beaucoup d'efforts de discréditer la RFA, notamment comme on voit sur des affiches ici qui disent que les meurtriers de Patrice Lumumba se trouvent à Bonn. Pour non pas seulement le colonialisme belge, mais le colonialisme allemand. Vous pourriez trouver des accusations similaires dans le cas du meurtre de deuxième leader important de l'Union des populations du Cameroun, où vous aviez trois meurtres successifs des leaders nationaux d'opposition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le même, la même structure que pour le passé national-socialiste, de dire en RDA, nous n'étions pas les nationaux-socialistes, nous n'étions pas les colonialistes, mais c'est les impérialistes ouest-allemands qui réclament leur possession au Cameroun notamment.
Vous avez évoqué les noms de rue, c'est une question qui se pose encore tout à fait aujourd'hui, parce qu'à l'heure où on parle, il y a trois rues à Berlin, je crois, dont on veut changer les noms. Andreas Eckert, peut-être.
C'est aussi quelque chose qui a commencé peut-être il y a une trentaine d'années. Ce sont toujours des initiatives locales. Par exemple, ici, il y a ce quartier de Wedding, où il y a beaucoup de noms qui rappellent les gouverneurs coloniaux allemands, mais aussi comme Lüderitz ou des commerçants allemands qui ont vraiment commencé le colonialisme allemand. Mais aussi, il y a un Togo-Straße et tout ça. Donc, et ce débat est assez compliqué parce que les gens disent « Ah, c'est trop compliqué parce que sinon il faut changer toutes mes adresses et tous mes passeports et les choses comme ça. » Il y a d'autres qui disent « Mais c'est vraiment une époque ancienne, donc pourquoi vraiment débattre ça ?» Et d'autres qui disent « Mais voilà, c'est quelque chose qui signifie encore une fois qu'il n'y a pas du tout un débat critique sur le colonialisme et ce sont surtout ces petits symboles quotidiens qu'il faut changer pour créer une conscience plus profonde de ça. Même il n'y a jamais l'humanité, ce sont souvent des grands procès, il y a des expertises, il y a des jurys et tout ça, mais à la fin, c'est très difficile de changer les noms. Quelquefois, on a par exemple trouvé des gens qui s'appellent aussi Karl Peters, qui était un administrateur, donc quelque chose dans le Wedding dans les années 40 ou quelque chose comme ça. Donc on a fait des solutions très, très, très pragmatiques.
Dans une certaine mesure, l'exposition que nous sommes en train de visiter est une réponse aussi à ce contexte très local. Et il y a depuis une dizaine d'années un terreau d'organisations, d'associations, d'ONG qui se sont construites à Berlin pour avoir une réflexion critique sur le passé colonial, sur ces noms de rues que vous avez évoqués, mais sur d'autres aspects, sur les statues. Il y avait aussi en 2009 un groupe d'historiens qui ont mené une réflexion sur l'exposition permanente du DHM, donc de ce musée, qui passait à peu près complètement sous silence la période coloniale. Et donc ont commencé à mener une contre-visite du musée en montrant que toute une série d'objets, toute une série de personnes qui étaient évoquées dans le musée avaient un passé colonial. Par exemple, je me rappelle d'une photographie avec des personnes qui étaient pendues donc des sujets coloniaux qui ont été pendus avec en dessous la légende expédition punitive, sans remettre ça en contexte. Alors qu'on sait très bien qu'une expédition punitive, ça voulait dire aussi, dans le contexte de la violence coloniale, quelque chose de tout à fait particulier. Et puis une autre partie de leur critique, c'était de montrer qu'un certain nombre de photographies, par exemple, qui montraient des personnages politiques allemands comme Bismarck ou des médecins comme Koch ou d'autres, des députés, avaient également des possessions, des intérêts en colonie, des intérêts politiques en colonie ou participaient de la propagande coloniale. Et en fait, l'exposition de 2017 est une réaction aussi à cette critique vraiment directe des grandes institutions, une interpellation et qui rencontre une attente, visiblement, puisque vous parliez de 100 000 visiteurs, ce qui est quand même très important pour une exposition d'histoire.
C'est avec ces associations, Kerstin Subbenvoll, que vous avez travaillé pour cette dernière partie de l'exposition, qui tend à montrer que l'Allemagne, pour certains, est une société postcoloniale. Il y a une association, une grande association qui s'appelle Berlin Postcoloniale.
Oui, c'est le musée qui a travaillé avec des différentes associations dans cette partie ici qui ont eu l'occasion de contribuer leur point de vue et notamment dans cette dernière partie aussi, l'idée c'était qu'on ouvre aussi un peu vers les niveaux européens et plus ample que ça. Et donc je pense tout à fait à la fin de cette exposition, vous avez ces quatre graphiques qui vont un peu dans ce sens-là que quand vous regardez par exemple l'Union européenne, vous avez des continuités personnelles dans ce qui est l'aide au développement. Au début de ces années 50, vous aviez deux processus parallèles. D'un côté, au niveau politique, la France, par exemple, qui veut intégrer son Union française dans le marché commun européen. Et vous aviez alors des administrateurs qui ont administré les moyens pour le développement social et économique dans les années 40-50 dans les colonies et après qui passent dans les directions respectives dans l'Union européenne. Et plus grand que ça, vous auriez même des acteurs africains qui font un genre de recours au colonialisme tout à fait différent qui serait de dire il y a des pouvoirs occidentaux comme la Cour pénale internationale qui nous juge, nous africains. Donc vous avez beaucoup de recours à ce passé colonial qui ne se limite pas seulement à cette société allemande. Et c'était un peu aussi le but de cette dernière section de montrer ça.
Alors on termine cette exposition devant une œuvre contemporaine de 2015 d'un artiste tanzanien qui s'appelle Power of H2O, qui fait référence directement à la guerre des Magi-Magi qu'on a évoquée en début d'émission, puisque on n'a pas dit que Magi-Magi c'était une sorte de potion magique un peu pour enfin ou d'eau qui rendait invulnérable.
Magi est le mot swahili pour d'eau. Il y a cette idée d'avoir un secret avec beaucoup de pouvoir. Ici on le met sur le corps, on était irrésistible contre même les revolvers et les machine gun, comme on dit en français.
Les mitrailleuses.
Les mitrailleuses allemandes, oui.
Alors là, il reprend cet imaginaire pour montrer que les gens de son pays devraient pouvoir s'élever contre des nouveaux dangers, que sont la drogue, que sont la corruption, que sont des choses comme ça. Je voudrais profiter de cette œuvre un peu pour vous demander à tous les trois qui allez parfois en Afrique, comment est-ce que cette mémoire du colonialisme allemand se pose aussi pour les populations africaines. Andreas Eckert.
On ne peut pas dire que l'époque coloniale allemande influence beaucoup la politique contemporaine. C'est en train un peu de changer. Par exemple, en Tanzanie, le débat sur le dinosaure, qui est ici au musée de l'histoire naturelle, il y a quand même un grand débat politique pour le repatrier en Tanzanie. C'est-à-dire aussi les politiciens et les gens de l'université sont vraiment un peu poussés de faire quelque chose sur cela.
Un cas qui est peut-être surprenant de mémoire du passé colonial allemand, c'est dans un pays comme le Togo, par exemple, qui a été ensuite une colonie française, donc de la Première Guerre mondiale à 1960, la colonisation allemande, paradoxalement, a pu faire l'objet d'une idéalisation pour critiquer la colonisation française. Donc on a pu trouver des gens au Togo dans les années 20, dans les années 30, qui ont dit que la colonisation allemande était bien plus performante, bien plus positive que la colonisation française. C'était en réalité, bien sûr, une arme destinée à critiquer la domination française et dont on garde parfois une trace aujourd'hui. Il y a l'exemple d'un historien allemand qui allait il y a quelques années à Lomé pour présenter un bilan très très critique de la colonisation allemande et de la violence allemande, et il s'est retrouvé face à une audience qui en partie lui disait non, mais il y avait aussi des choses très bien. Donc une situation comme ça à front renversé, où ceux qui défendaient finalement une certaine mémoire de la colonisation n'étaient pas ceux qu'on attendait. Mais il est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même très épisodique et très anecdotique par rapport à la mémoire de ces pays, par rapport au fait colonial et à l'esclavage notamment.
On a évoqué la Tanzanie, la Namibie, le Togo. Kerstin Twenvold, vous travaillez sur le Cameroun. Comment ça se passe là-bas ?
Je pense qu'au Cameroun, vous avez des procès tout à fait similaires. Et en même temps, il faut différencier, je pense, parce que tout ce qui est l'histoire du mouvement d'opposition, il y a un grand silence. Dans les années 40, vous aviez, par l'aide des syndicalistes, des partis politiques de gauche critiques, des images des deux Allemagnes très très différenciées, mais qui ne se sont pas passées partout, évidemment, ce qui sont des questions d'éducation aussi, d'accès à l'éducation. Et quand vous regardez l'exposition, vous avez quand même ici des éléments qui sont intégrés, par exemple, pour planter un arbre, là où Mangabel, par exemple, colonialisme allemand, a été pendu. Et à Yaoundé, vous avez une rue Nartigal. Pareil, comme on discute les rues ici, on pourrait évoquer des discussions comme ça pour ceux qui étaient concernés ou sont concernés aujourd'hui par ce colonialisme.
Merci beaucoup à tous les trois et à toute l'équipe du Deutsches Historisches Museum qui nous a accueillis. Je rappelle pour ceux qui viendraient à Berlin ou pour nos auditeurs qui sont en Allemagne que cette exposition dure jusqu'au 14 mai prochain.
Quand on a la démocratie chez soi, qu'on envoie la barbarie chez les autres, arrive le jour du retour à l'envoyeur.
Nous continuons demain cette série consacrée à la mémoire des colonisations en nous intéressant à la Belgique et à son roi Léopold II. Merci à Michel Gassic qui a assuré la prise de son à Berlin et à Anne Fleury qui a réalisé cette émission préparée comme d'habitude par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Si vous voulez la réécouter, si vous voulez la télécharger, allez sur le site internet de France Culture. Vous pourrez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.